Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, il est 4h58, nous sommes le mardi 4 décembre 2018. Le mouvement des Gilets jaunes est toujours à la une de vos journaux ce matin, après la mobilisation et les débordements du week-end. Comment le gouvernement peut-il mettre fin à cette crise? Hausse du SMIC, baisse des taxes? Pour maintenir l'ordre, même si pour l'instant le ministre de l'Intérieur a écarté l'idée, on parle de réintroduire l'état d'urgence. Ma consoeur Eva Rock est prête, elle a d'ailleurs proposé de sonner chaque soir le couvre-feu dans les rues de Paris.
Très bien.
Bonjour Eva, on est parti ensemble pour deux heures d'infos. Quelles questions vous avez envie de poser à nos auditeurs ce matin, sachant que, je rappelle quand même en guise de préambule, qu'initialement au début de la saison, le cahier des charges que j'avais fixé était de poser une question susceptible de donner le sourire à nos auditeurs. Question gay, un cahier des charges duquel vous avez considérablement dévié, sachant qu'hier, pour résumer, la question c'était quand même, si vous deviez décéder là tout de suite, fin 2018,
non,
quel serait votre dernier voyage?
C'était
question,
pas ça.
À 4h58, quand on
serait
là le matin.
Vous surinterprétez ce que je vous raconte.
C'était la question.
On n'a pas eu le ballon d'or.
Et c'est pas une question, c'est une affirmation.
C'est un constat. On n'a pas eu le ballon d'or. Ouais. Du coup, quelle cérémonie on pourrait inventer pour être sûr qu'un Français obtienne un prix?
Les hot d'or, ça existait avant, mais... Ça n'existe plus. Vous savez pas ce que c'est, les hauteurs?
Non.
C'est vrai?
Non, je sais pas.
Ah, c'était une récompense dans un type de cinéma particulier.
Je vois pas du tout.
À vos côtés, Eva.
Vraiment pour une idiote.
Oui, c'est vrai. Notre rayon de soleil lusitanien. Notre rossignol lisboète qui aime à chanter par-dessus les disques qu'on écoute.
Oh,
ce qui donnera lieu tout à l'heure à un nouveau jeu. Un genre de blind test où il faudra découvrir quelle chanson chante Céline, intitulée Le Kékédi d'Acosta. Bonjour Céline d'Acosta.
Bonjour Mathieu,
quel
bonjour à
tous.
Quel temps
sur notre beau pays en attendant.
Mais c'est encore bien gris ce matin, à part sur l'extrême sud où là on a du soleil. Mais ça ira mieux cet après-midi, même si les températures baissent un petit peu. On aura le retour du soleil par endroit seulement.
Merci beaucoup Céline. Chers auditeurs, vous êtes en bonne compagnie. Laissez-vous porter, on vous informe, on vous câline, on vous écoute, on s'occupe de tout. Pensez juste à vous laver, ça on peut pas le faire pour vous. Indéniablement, vous écoutez. Debout les copains, deux heures d'actu assaisonnée à la bonne humeur, c'est parti.
Et nous sommes le mardi 4 décembre, merci d'avoir choisi Europe 1. Il est 5h, très bon réveil. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce mardi 4 décembre, parce qu'on a bien avancé dans l'année. C'est bien qu'on ait avancé dans l'année. C'est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
Le gouvernement va-t-il lâcher du lest après hier les consultations politiques et une réunion à l'Élysée? L'exécutif s'apprête à faire des annonces. Un gouvernement mis sous pression par l'opposition, mais aussi par sa propre majorité. Certains députés marcheurs, souvent en première ligne dans le recueil de la colère, s'alarment de la situation et le font savoir. Et puis, il y a le spectre d'un nouveau samedi de violence qui inquiète. Hier, plus de 70 manifestants sont passés devant un juge, parmi eux peu de casseurs chevronnés. Et puis le sport, et oui, le ballon d'or a bien échappé à un Français champion du monde. Le meilleur joueur de la planète cette année s'appelle Luka Modric, le Croate. Le pouvoir est sous pression et il va tenter une sortie de crise. C'est une course contre la montre parce que plane la menace d'un nouveau samedi d'échauffouré dans toute la France après les actions d'une violence inouïe à Paris notamment. Édouard Philippe devrait, dans les toutes prochaines heures, annoncer des mesures. Ce alors que les Gilets jaunes emmènent désormais dans leur sillage les lycéens, une centaine d'établissements sur plus de 4000 en France, tout ou partie bloqués hier, mais aussi les agriculteurs. Une centaine a hier soir déversé 40 tonnes de pierres à Chartres devant la préfecture d'Eure-et-Loire contre la hausse des taxes, un risque de contagion qui met de fait l'exécutif sous pression, tout comme les membres de l'opposition, mais aussi les députés de la majorité. Certains se disent affolés par la situation. Ils vont parler aujourd'hui au Premier ministre à l'occasion d'une réunion de groupe. Virginie Riva.
Inquiets, les députés, souvent en première ligne sur le terrain, sont aussi très remontés contre l'exécutif. Une députée raconte avoir alerté depuis des semaines le cabinet du Premier ministre sur la situation insurrectionnelle. Aucune réponse. Un autre député de la majorité renchérit. Si j'étais Emmanuel Macron, je me séparerais aujourd'hui d'Édouard Philippe. Des annonces sont attendues. Un moratoire sur la taxe sur le carburant semble déjà envisageable. C'est ce que réclame notamment le député En Marche Mathieu Orphelin.
Il faut une ou deux mesures fortes. Est-ce que la bonne mesure, c'est une pause de 3 mois sur la hausse de la fiscalité écologique prévue au 1er janvier? C'est une possibilité. Des mesures fortes comme ça, qui seront comprises par tous et qui vont permettre de diminuer la pression apaiser le pays et faire que le week-end prochain, on soit dans un pays serein.
Mais ça ne suffira pas. Un certain nombre de députés souhaitent aussi une autre mesure d'accompagnement, comme une prime mobilité, un coup de pouce au SMIC ou encore une baisse de la TVA sur l'électricité. Tous craignent sinon que le pays s'embrase. Beaucoup se posent même cette question, n'est-ce pas déjà trop tard, sans vouloir formuler aujourd'hui de réponse définitive.
Virginie Riva, et entre Gilets jaunes et gouvernement, le dialogue est toujours aussi difficile à établir après le fiasco d'une première réunion vendredi dernier. Une autre était prévue aujourd'hui, mais la délégation des contestataires formée depuis dimanche à peine renonce à venir à Matignon. Certains membres auraient reçu des menaces de mort de la part d'autres gilets jaunes.
Après les violences de samedi, c'est le temps de la réponse judiciaire.
3 mois fermes hier pour 2 gilets jaunes après l'incendie de la préfecture au Puy-en-Velay à Paris. 73 suspects jugés hier en comparution immédiate et ça va continuer aujourd'hui. Des profils plutôt ordinaires, peu de casseurs chevronnés, du sursis pour beaucoup, mais de la prison ferme pour certains. Samuel G. est avocat. Il estime que la justice ne s'attaque pas aux bonnes personnes. Les vrais casseurs sont sans doute, pour beaucoup, toujours dans la nature.
C'était des gens tous pères de famille, ayant des revenus entre 1500 et 2500 euros. Quelques difficultés financières liées soit à des reconfigurations familiales, des parents dans le besoin, des grands-parents dans le besoin dont ils s'occupent, etc. Donc c'était vraiment des gens simples, travailleurs, qui n'étaient absolument pas contre le principe de l'État, contre la police, avec, à mon sens, une intention de jeter des pétards, puisque c'est ça qui leur a été reproché, sur les policiers, non pas du tout. C'était des gens qui venaient manifester en faisant éventuellement un peu de bruit, mais certainement pas des casseurs. Et donc, on a vraiment là une décision qui montre une volonté de bloquer ce mouvement dès à présent, y compris à l'endroit des gens qui ne sont pas des casseurs, donc de ne pas séparer le bon grain de l'ivraie.
Des propos recueillis par Pierre de Cossette pour Europe 1. En cas de nouveau rassemblement en violence samedi, que peuvent faire les policiers ? Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, a reconnu hier soir devant la commission des lois de l'Assemblée que le système devait être amélioré et précisé que la réflexion sur les mesures envisagées en cas de nouvelles manifestations était toujours en cours. Aujourd'hui, il s'exprimera devant le Sénat et doit par ailleurs recevoir au ministère des syndicats de policiers. Emmanuel Macron a déjà promis, lui, une prime exceptionnelle pour les membres des forces de l'ordre qui officiaient samedi dernier. Enfin, sachez que les actions des Gilets jaunes perdurent partout en France et que la pénurie d'essence gagne de plus en plus de stations-service en Bretagne, Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, suite au blocage de dépôts de carburant.
Europe 1, il est 5h05.
Dans le reste de l'actualité, décision le 5 mars prochain sur le volet civil du Lévothyrox. Le tribunal devra dire si le laboratoire Merck a commis une faute en ne prévenant pas que la formule de son médicament avait changé. Plus de 4000 patients se sont constitués partie civile après avoir ressenti des effets secondaires. Donald Trump s'est recueilli cette nuit devant le cercueil de George Bush, exposé solennellement à Washington, sous la coupe du Capitole. Les portes sont ouvertes au public avant les obsèques nationales demain. Et puis on connaît ce matin, Mathieu, une partie du secret de la longévité des tortues géantes.
Des tortues géantes, oui.
Des tortues géantes, des Galapagos.
Je crois.
L'une est morte en 2012, elle était âgée de 120 à 130
c'est
ans.
C'est ce que je disais.
Oui. Et les chercheurs annoncent en fait que leur ADN possède la faculté de se réparer.
Exactement.
Une facilité de guérison qui permet leur longévité.
Oui, ça vient de Nice. C'est un sérum de jouvence.
C'est la pisse à la dière.
C'est la pisse à la dière magique. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et alors, de passer à l'actu sportive, je pose la question. Vu la finesse de l'analyse sportive dont est capable Céline Dacosta, comme hier sur la blessure de Neymar, a-t-on au fond vraiment besoin des compétences de Jérôme ?
Il se blesse souvent. Hein. Ah, tu crois ? Il est quand même fragile, le Neymar.
La réponse est oui. Hein. Le sport, c'est quand même mieux avec Jérôme Lacroix. À la une, Jérôme. L'avènement d'un joueur unique.
C'est Luka Modric, 33 ans, élu hier soir meilleur footballeur du monde. Et oui, Ballon d'Or, le maître à jouer du Real Madrid, victorieux de 4 Ligues des Champions, dont les 3 dernières. Catalyseur de l'équipe croate, vice-championne du monde, battue en finale par la France. Modric, c'est vrai, c'est la classe. Seul regret, bah, il prive un Français de cette récompense individuelle suprême. Griezmann finit 3e. Derrière Ronaldo, hein, l'inamovible, décidément, il est 2e. Mbappé 4e, Varane 7e. Aujourd'hui, Luka Modric a donc devancé ses Bleus qui, en juillet dernier, le privaient d'une victoire en Coupe du Monde. Mais le Croate ne parle pas de revanche.
Je ne vois pas ça comme ça. Je suis juste heureux que les gens reconnaissent mon année comme quelque chose de spécial. J'ai joué un grand football, juste ça, rien de plus. Et je ne vois pas ça comme une revanche, donc, mais comme je vous l'ai dit, j'aurais bien échangé ce trophée contre la Coupe du Monde.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie.
Kylian Mbappé se console avec le Ballon d'Or des jeunes.
Voilà, le prix Copa, premier du nom, réservé aux moins de 21 ans. Par ailleurs, remise du premier Ballon d'Or féminin pour l'attaquante norvégienne de Lyon, Ada Hegerberg, 23 ans, grâce au gain de la Ligue des Champions avec les Lyonnaises, mais surtout grâce à ses 46 buts D1 et Coupe d'Europe confondus la saison dernière.
46 buts, c'est énorme, Jérôme. C'est plus que les garçons, non? 46
ah oui,
buts,
oui,
c'est monstrueux comme
buts,
score.
Après, en
une
D1,
saison.
Les Lyonnaises sont ultra dominatrices.
Oui,
elles marquent
beaucoup. Beaucoup de buts, voilà, à chaque match. On termine avec le chiffre du jour.
17, comme le nombre de points inscrits hier soir par le bleu du basket Yacouba Ouattara. Le joueur de Monaco finit meilleur marqueur de ce France-Bulgarie à Limoges en éliminatoire du Mondial 2019. Large succès français, 77-53. Mais au coup d'envoi, les bleus étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde. C'est l'année prochaine en Chine.
Merci beaucoup Jérôme. C'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Jérôme, un dernier mot pour Céline qui a refusé ce verre que vous lui proposiez ce soir.
Bouffonne.
Non, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal, c'est moche.
Je vois des salades.
C'est certainement l'histoire de Gianluigi, probablement.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, ce n'est pas une phrase que vous m'entendrez prononcer souvent, mais et si vous écoutiez les conseils de Francis Lalanne ? C'est pas celle-ci
non,
de Francis.
Non.
Et ben moi je l'écoute en entier, elle est pas si mal, figurez-vous.
Ah bon ?
Ouais, je prends le refrain, on se moque un peu, mais elle est sympathique. À 5h10, chaque matin, nous rencontrons des hommes et des femmes qui ont entendu l'appel de Francis et qui ont osé un jour changer de vie. Ce matin, nous irons à la rencontre de Solveig. Elle a fait une école de commerce pour finalement devenir ébéniste.
5h09, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez. L'heure est venue de faire un premier point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Mm-hmm. Alors vous me disiez, c'est gris ce matin, mais ça va s'améliorer dans la journée.
Oui, c'est vrai. Alors, ciel gris avec des averses possibles entre la Normandie et les reliefs de l'Est. Faibles averses également sur l'Auvergne et la région Rhône-Alpes. On aura déjà quelques éclaircies ce matin entre le nord de la Bretagne et les Ardennes, avec quand même un risque d'averse. Et du soleil, là par contre, beaucoup plus franc, avec un temps sec entre les Pyrénées et les Alpes-Maritimes. On aura même un peu plus de soleil donc cet après-midi entre la Normandie et le nord de l'Alsace. Et il gagnera également l'Auvergne, la région Rhône-Alpes. Et puis ça va rester bien gris ailleurs, avec de nouvelles pluies qui vont arriver par la Bretagne en fin de journée. Les températures, elles baissent un petit peu, mais c'est toujours assez doux, avec une moyenne de 10 à 20 degrés du nord au sud. Il en fera 11 à Paris.
Merci Céline. Eva, vous n'avez pas digéré qu'un Français n'ait pas
Exactement.
Obtenu le Ballon d'Or hier soir.
Donc on a imaginé quelle cérémonie au cours de laquelle on pourrait enfin obtenir un prix en tant que Français. On a posé la question à nos auditeurs sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Slyboîte nous répond, la cérémonie du JD d'Or. Je m'y attendais, évidemment, ça a été la première réponse. Et Stéphane nous dit, c'est le prix du râleur que je remettrai à un Français. Et c'est son anniversaire à Stéphane. Et il nous envoie un message tous les matins, donc un méga bon anniversaire à vous, Stéphane.
Bon
Merci.
Anniversaire. Stéphane.
Stéphane.
On l'embrasse. Merci beaucoup, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour être parfaitement informé sans pour autant être complètement déprimé. Et chaque matin à 5h10, ça ne risque pas puisque dans Fallait oser, on vous offre un grand bol d'inspiration en allant à la rencontre de celles et ceux qui un jour ont osé changer de vie. Ce matin, on vous présente Solveig Bongrain, une jeune femme passée par une école de commerce et qui est finalement devenue ébéniste. Tout a basculé lors d'un entretien professionnel quand son supérieur hiérarchique lui a demandé où elle se verrait dans 3 ans.
Fallait oser. Je lui ai dit, bah en fait, j'ai envie de faire complètement autre chose. Et c'est là que je lui ai parlé de l'ébénisterie. Et lui, en fait, il a eu des yeux écarquillés, mais plutôt de bonheur, on va dire. Vu qu'en fait, nous, l'objet de la fondation, c'était d'aider les entrepreneurs. Il a tout de suite pris mon cas comme ça, en fait.
Après une rupture conventionnelle, Solveig se lance donc dans une formation en ébénisterie.
Et ça fait maintenant 5 ans qu'elle est installée à son compte, à Montreuil, en région parisienne. Elle a monté son atelier d'ébénisterie en mobilier contemporain.
Ce que je préfère, c'est clairement la création, la phase avec le client, de dessin, d'essayer de comprendre ce que veulent les gens, et la phase de livraison. Et après, il y a des phases vraiment plus ingrates. Mais c'est vrai que j'aime vraiment mon métier. J'ai une grande flexibilité, j'ai une grande souplesse, j'ai des enfants bas âge. Bon, c'est clair que financièrement, c'est pas comme je pouvais gagner ma vie avant, mais j'ai pu trouver cet équilibre que beaucoup de mamans ont du mal à trouver aussi, je crois, quand elles ont des CDI, en fait.
Alors pour voir les créations de cette jeune ébéniste de 33 ans, il suffit de taper Solveig Bongrain sur internet. Vous verrez sur les photos, ce sont de très jolis meubles, très épurés, très modernes.
Oui, et puis si vous aussi vous avez changé de vie et si vous avez envie de témoigner, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1, il est 5h12, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos sur lesquelles plane une inextinguible joie de vivre grâce notamment à celle qui chaque matin chante la vie au micro d'Europe 1 pendant les pubs, pendant les disques. Tout à l'heure, nous jouerons à Kékédi Dacosta. Ce blind test thèse d'un nouveau genre qui consiste à traduire tout du yaourt en français pour deviner ce que chante Céline. Un tout premier indice.
C'est
facile pour vous, évidemment, vous étiez en studio.
Même moi, je sais pas.
Et bien, vous ne jouez pas, ce sont les auditeurs qui doivent trouver sans la musique. Le temps où vous cogitiez, je vous donne le programme à suivre, notre page santé et un problème qui touche surtout les personnes âgées que malheureusement on ne voit pas toujours venir, la dénutrition. Soyons vigilants pour nos proches. Et puis, mardi, les bons tuyaux, le meilleur de la culture et des nouvelles technologies sur un plateau avec aujourd'hui du jazz, des nouvelles questions soulevées par l'arrivée des voitures autonomes et Loulipo, un groupe d'écrivains qui s'amuse à se fixer des règles draconiennes d'écriture, comme par exemple écrire un livre où chaque mot commence par la lettre M. Ils se définissent comme, je cite, des rats qui construisent eux-mêmes le labyrinthe dont ils se proposent de sortir. Vous avez compris, Eva ?
Non, rien du tout.
Pas Nicolas Caro vous expliquera mieux que moi tout à l'heure. Pour l'heure, première interlude musicale avec une chanson qu'avec Céline nous avons beaucoup écoutée dans notre chambre d'ado sous nos posters. Elle de David Charvet, moi de Jean-Pierre Papin. C'est Seven Seconds. Youssoundour et Néné Chéri sur Europe 1.
Il est 5h16, Mathieu Noël.
On est vraiment fort sur Europe 1. De vous les copains, continue avec le pressing, notre revue de presse en mode zapping et la page santé du docteur Ichou qui évoquera ce matin une pathologie souvent négligée et qui peut pourtant avoir des conséquences fatales, la dénutrition.
Il est 5h17, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Mis sous pression par les gilets jaunes, le Premier ministre devrait faire des annonces dans les prochaines heures pour tenter de calmer la grogne alors qu'un possible nouveau samedi de violence se profile. Face à ce risque, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner invite d'ailleurs les organisateurs de la marche pour le climat, également prévue samedi, à ne pas maintenir la manifestation. Enfin, la contestation s'étend à certains lycées, une centaine était entièrement ou partiellement bloquée hier. Aux agriculteurs également, une centaine d'entre eux a hier soir déversé 40 tonnes de pierres à Chartres devant la préfecture d'Eure-et-Loir contre la hausse des taxes.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 4 décembre et pour les amateurs de course hippique, retrouvons sans plus attendre celui qui a toujours les bons tuyaux, que ça concerne les performances des chevaux ou celles de Jérôme Lacroix lorsqu'il retrouve Céline Dacosta à l'étape hôtel de la Porte de Vanves.
Irrésistible lors de sa dernière tentative, il s'est imposé ce soir-là sans aucune émotion et avec la manière.
Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Vincennes et mon pari gagnant sera le 304 Elliot Dambry. Âgé de 4 ans, il fait preuve depuis le début de sa jeune carrière d'une louable régularité. 15 courses, 3 victoires et 5 fois dans les 3 premiers, soit plus d'une fois sur deux à l'arrivée. Sérieux, maniable et capable d'adopter toutes les tactiques, ce trotteur sur lequel on peut toujours compter va certes débuter sur la grande piste de Vincennes, mais il a visiblement le bon profil pour d'emblée s'y adapter. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vincennes, réunion 1 dans la 3e course, le numéro 4, Elliot Dambry.
C'est noté. Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et voici ce moment que vous adorez car il vous offre une plongée souvent vertigineuse dans l'intimité de notre joyeuse colocation. C'est le moment où, tous réunis à la table du petit déjeuner, nous ouvrons la presse du jour. C'est toujours les mêmes mots, toujours les mêmes gestes. La nuisette de Céline Dacosta frôle à dessein la cuisse de Jérôme Lacroix, qui en est chaque fois tout émoustillé. Jérôme qui ne comprend pas pourquoi, après leur début prometteur, il ne se passe désormais plus rien avec Céline. Une situation d'autant plus intolérable pour lui que Céline renie la dimension sentimentale de leur relation pour la réduire à quelque chose qu'elle n'était pas.
Je ne sais pas, je pensais que c'était juste un coup comme ça, un coup d'essai.
Bref, oui. C'est moche Céline. C'était beaucoup plus pour Jérôme. Préservons nos auditeurs d'inutiles scènes de ménage et passons rapidement au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. Les unes de vos quotidiens sont encore largement consacrées à la crise des gilets jaunes. Le Figaro affirme « Sous pression, l'exécutif prépare sa sortie de crise. Les échos s'inquiètent en titrant « L'économie accuse le coup » et Libération pose une question « Des gilets jaunes aux gilets jeunes ?» Point d'interrogation. Et vous, mes besogneux glaneurs, qu'avez-vous déniché dans la presse du jour ? On commence avec vous, Eva.
Besogneux glaneurs.
Mais oui, bah, il faut bien varier les expressions. Parfois, ça donne n'importe quoi, comme ce matin. C'est des choses qui arrivent.
Je vous ai trouvé un excellent papier dans les pages économiques du Figaro qui propose un article très complet sur le nouveau secteur d'investissement des géants de la technologie. C'est la santé. Et oui, après les livres, la vidéo ou encore les produits alimentaires, Amazon, par exemple, a racheté cet été un site américain de vente en ligne de médicaments. Une acquisition d'$1 milliard quand même. Et au même moment, le géant du numérique recrutait des cadres dans l'assurance et la pharmacie, obtenait dans plusieurs États américains l'autorisation de vendre en gros des médicaments. Google, Apple, Facebook ou Microsoft ne sont pas en reste dans cette nouvelle bataille, en fait. Et GAFA n'investissent pas dans le secteur de la santé par philanthropie, vous l'imaginez bien.
Non.
Leur ambition est de recueillir un maximum de données de consommateurs et de parfaire leur connaissance des comportements quotidiens, résume Benjamin Zenou, qui est fondateur de la start-up Simplyfield. Et avec ça, évidemment, de faire encore des offres plus ciblées et de monnayer ces données. Mais du côté des labos et des poids lourds du dispositif médical, les nouvelles technologies ont révolutionné leur métier. On vous a souvent parlé ici des applis et autres objets connectés qui révolutionnent la vie des patients. Et les acteurs de la santé qui aujourd'hui voyaient un peu ces géants de la tech comme des, voilà, simplement des collecteurs de données obnubilés par ça et pas franchement des partenaires, eh bien aujourd'hui, ils sont décrits comme des alliés indispensables et notamment à la recherche. À eux de travailler ensemble. Et alors, exemple parmi tant d'autres que donne le Figaro ce matin, Google s'est rapproché de 3 labos dont les recherches sont concentrées sur le diabète, l'asthme et le cancer. Un des projets est la création de lentilles de contact intelligentes pour diabétiques. Google s'est également associé à Sanofi pour inventer une clinique du diabète virtuel qui fonctionne à partir d'une application sur smartphone, ou encore Samsung qui investit aussi dans la santé via sa filiale Samsung Biologique. Et vous le découvrirez dans ce dossier, la liste des alliances entre laboratoires et entreprises du numérique ne manque pas. Reste à savoir comment nos données seront protégées, parce que cette question n'est pas abordée dans ce dossier qui est pourtant reste très complet, c'est à lire dans les pages économiques du Figaro.
Et maintenant, je vais demander à Céline Dacosta de résumer tout ce que vous avez dit.
Non, pas vraiment, non.
Vous mettez Céline,
si, j'écoutais, j'écoutais. Alors, c'est pas sympa.
Un petit peu sur son, téléphone portable.
Non, j'ai envoyé un message à notre réalisateur.
Je le signale.
Parce que vous lui envoyez un message.
Que je n'ai pas envoyé.
Pas
non, non, non,
du tout.
Bougez pas, regardez. Résumez ce que je viens de vous redire.
Mais moi, je suis tout ouïe.
Je présente cette émission. Que voulez-vous que je fasse? Je suis en train de vous écouter tout le temps. Je bois vos paroles, Eva.
Je suis choquée.
Non, mais ne soyez pas choquée. C'était très intéressant. D'ailleurs, je vous accorde un bon point. Et comme vous en êtes à 5 bons points, c'est une image pour vous aujourd'hui, Eva.
On passe à
Céline, qui devait certainement préparer son intervention.
Eva, ne m'écoutez pas, ce n'est pas grave. Un article trouvé, c'est de bonne guerre. Dans La Croix, on apprend que deux grands patrons, Denis Duverne, président du conseil d'administration AXA, et Serge Wenberg, son homologue chez Sanofi, ont lancé un appel hier aux Français dont la situation est très confortable à donner 10% de leurs revenus ou de leur patrimoine à des associations de leur choix. C'est une initiative programmée depuis longtemps, hein, rien à voir avec les tensions sociales qui enflamment l'actualité en ce moment et qui existe déjà aux États-Unis. Un appel avait été lancé en 2010 par Warren Buffett et Bill Gates à leurs confrères milliardaires américains pour les inciter à distribuer, alors là c'est un petit peu plus, hein, 50% de leur fortune. Une comparaison qui s'arrête là, explique le président d'AXA, car la France est dans une situation différente en termes de système fiscal et de règles d'héritage qui sont un petit peu plus contraignantes ici. Alors en France, ils ciblent aussi les très riches, mais plutôt les millionnaires. Pour le moment, une quarantaine de personnalités se sont déjà engagées, recrutées principalement dans la sphère économique. On a quelques personnalités, mais très peu, hein, comme Lynn Renault, Muriel Robin ou Marc Lévy. Aucun sportif pour l'instant n'a répondu à l'appel. Pourtant, là, on en aurait quelques-uns qui pourraient s'engager.
Oui, vous appelez N'Golo Kanté, il répondra oui.
Puis donnera 50%, on lui pas dit.
N'Golo, il est fabuleux.
Franchement, les sportifs s'investissent souvent.
Oui, mais alors, c'est vrai que dans l'article...
Mais c'est pas du caritatif, là. Ils
disent aussi qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas donner publiquement. Enfin, parce que là, c'est public, du coup, qui préfèrent...
À pas faire de publicité.
Oui, exactement.
Encore mieux.
Les deux patrons qui ont pris cette initiative disent avoir essuyé pas mal de refus, mais ne baissent pas les bras. L'objectif est de fédérer au moins 400 personnalités d'ici la fin de l'année 2019. Un objectif pas forcément facile à atteindre, alors on leur souhaite bonne chance et on les aide en adressant ce petit message aux plus riches, hein, uniquement.
C'est un article à lire dans La Croix. Exactement. Et Jérôme Lacroix me disait pendant la chanson qu'il s'engage à verser 10% de ses revenus. Bon, 15 euros qui feront la différence. Ah non, pas douter. Jérôme Lacroix, qu'avez-vous sélectionné pour nous ce matin dans la presse?
Moi, je vais vous parler ce matin de personnes exceptionnelles, de femmes fortes, de Wonder Woman, de femmes de fer. Ce sont des mamans, voilà. Et qui plus est, des mamans et sportives de haut niveau. Le Parisien aujourd'hui en France décrit ce matin ce changement. Plus question pour elles, pour les sportives de haut niveau, d'attendre la fin de leur carrière pour devenir maman. L'article avance ce chiffre. 7 Françaises médaillées lors des derniers JO d'été en 2016 sont depuis devenues mamans. Alors par exemple, il y a la boxeuse Estelle Mosley avec Tony Yoka, autre boxeur, ils avaient été sacrés champions olympiques tous les deux. Les handballeuses Laura Gloser et Amandine Lénaud qui disputent en ce moment l'Euro en France. Et sur ces 7 médaillées devenues mamans, 6 ont repris, entre guillemets, normalement, avec des gros guillemets, le cours de leur carrière. Alors bien sûr, pas évident de revenir, le corps est traumatisé, hein, une grossesse, c'est quand même pas anodin. Il faut un programme bien spécifique de reprise, mais pas évident non plus de cumuler les exigences de la performance avec la maternité. Alors Charline Picon, qui elle a été médaillée en voile au Brésil, au dernier JO, raconte « Je ne savais pas si j'avais envie de continuer. Sous-entendu, quel désir était le plus fort entre la performance et être maman? Finalement, j'ai eu envie et la possibilité de conjuguer les deux, c'est l'idéal. » Alors les enfants, même âgés de seulement quelques mois, accompagne souvent ses mamans sur les lieux de leurs exploits. Dans ces cas-là, surtout quand c'est loin, bah, c'est un peu système D. Hein. Charline Picon, toujours, elle raconte, pour un rendez-vous une fois au Japon, j'ai dû partager une babysitter avec une autre maman de l'équipe de France de voile, voilà, on s'arrange. Alors moi, j'ai appris dans cet article que la Fédération française de voile octroyait une aide 4000 euros annuels pour les mamans, mais aussi les papas, afin de concilier parentalité et c'est sport bien. De haut niveau. Ça, c'est bien. Mais une chose n'a pas de prix, celui de décrocher une médaille devant ses enfants. La lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, elle n'en a jamais autant gagné que depuis qu'elle est maman, c'est ce qu'elle dit. Sa fille aînée dit d'elle d'ailleurs, ma maman, son métier, c'est de gagner des médailles.
Oh, c'est beau. Et c'est une bonne nouvelle, cette prime de 4000 euros. Ça va vous permettre de continuer votre carrière dans le mini-golf naturiste. Oui. Et ça, c'est pas rien, Jérôme. Mais non, c'est pas nouveau, vous vous souvenez pas?
Bah oui.
C'est ce sport que j'ai choisi pour vous, Jérôme.
Je me souviens.
Le pressing, notre revue de presse en mode zapping, c'est terminé pour aujourd'hui.
La guinguette a fermé ses volets.
Très bien, la guinguette a fermé ses volets, les amis. À demain.
Europe 1.
Il est 5h26, Mathieu Noël.
On a perdu le pchit, mais oui, j'ai trouvé cette vieille chanson qui m'a ému. Debout les copains, continuez avec la météo et le journal d'Hélène Zélani à suivre. Fulgurant réveil à l'écoute d'Europe.
Il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline Acosta, un point sur la météo de ce 4 décembre, et non pas de ce 4 septembre, comme je le disais tout à l'heure un peu rapidement. Une légère amélioration
c'est
aujourd'hui.
C'est vrai qu'au niveau température, on pourrait croire qu'on est en septembre.
Mais je
pense. Légère amélioration, car le ciel restera bien souvent gris, surtout sur la moitié ouest. On aura encore quelques averses à l'est ce matin entre l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Alpes du Nord et l'est de l'Auvergne, surtout sur les reliefs. On n'est pas à l'abri non plus d'une ondée entre la Normandie et le Grand Est, mais on aura aussi des éclaircies sur ce secteur comme sur les Hauts-de-France où le ciel là sera relativement dégagé. Ciel dégagé et soleil aussi entre les Pyrénées et les Alpes-Maritimes et sur le nord de la Corse pour ce matin. Côté température, 8 degrés, c'est la plus basse à Marignane. Il en fait 11 à Brest, à Paris, 13 à Biarritz, 14 à Bordeaux et déjà 17 à Perpignan en ce moment.
Un peu plus de soleil pour cet après-midi.
Oui, mais pas partout. Hein. Il brillera encore sur les Pyrénées, les côtes méditerranéennes. Il gagnera l'Auvergne, la région Rhône-Alpes. Il sera également présent entre la Haute-Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne et le nord de l'Alsace. Partout ailleurs, ce sera encore gris, avec des averses sur les reliefs des Vosges et du Jura. Et puis, une nouvelle perturbation qui va porter de faibles pluies sur la Bretagne en fin de journée. Les températures toujours douces, même si elles baissent un petit peu. 10 degrés à Lille, 11 à Paris, 13 à Brest, 14 à Tours. Pour la moitié sud, la moyenne ira de 16 à 20 degrés encore.
Merci Céline.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sans négliger vos zygomatiques. À suivre notre page santé, aujourd'hui le docteur Ichou nous alertera sur une pathologie parfois difficile à diagnostiquer, surtout chez les personnes âgées, la dénutrition, un phénomène hélas plus fréquent qu'on l'imagine. Et puis, soyez le king de la pause café, épatez vos collègues par votre parfaite connaissance des dernières nouveautés culturelles. Au programme ce matin, du jazz, de la littérature et les toutes dernières innovations en matière de voitures autonomes. Notre expert innovation François Geffrier n'en est toujours pas revenu.
Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT-2000. Le kit, si tu préfères.
Mais je crois que je ne préfère rien. Je n'ai pas envie du tout de rouler dans une voiture qui sans arrêt pourra me parler. Alors là, j'arrive pas à le croire. Un ordinateur qui va me donner des ordres.
Bon, ça c'est juste un extrait de K2000. Mais François Geffrier est à peu près aussi surpris que David Hasselhoff par les avancées de l'automatisation.
Merci d'avoir choisi Repin pour vous réveiller. Il est 5h30. 5h-7h, Mathieu Noël.
Les infos de ce mardi 4 décembre 2018. Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Le gouvernement pourrait faire un geste pour tenter de répondre à la crise des gilets jaunes. Geste symbolique en tout cas déjà en Ardèche où le conseil départemental vote un gel de la fiscalité sur les carburants. La contagion dans les lycées, plus d'une centaine touchées hier dans toute la France et des manifestations parfois violentes comme à Toulouse. Et puis le Croate Luka Modric, sacré ballon d'or 2018. Il devance les champions du monde français. Kylian Mbappé décroche quand même le prix pour les moins de 21 ans. On va y revenir dans le journal des sports.
Europe 1.
Comment répondre à la colère des gilets jaunes? Le gouvernement étudie plusieurs propositions concrètes et notamment l'idée d'un moratoire sur la hausse de la fiscalité des carburants. Les annonces seraient imminentes. Hier soir, Emmanuel Macron a tenu une réunion ministérielle à l'Élysée avec notamment Édouard Philippe qui toute la journée avait reçu tour à tour les représentants des principaux partis politiques. En Ardèche, les conseillers départementaux, de gauche comme de droite, ont devancé toute annonce gouvernementale avec une mesure très symbolique. Ils ont voté une motion pour un gel de cette fiscalité des
carburants, mais aussi des prix du gaz et de l'électricité au 1er janvier. Rémi Pierre.
Sur les 34 conseillers départementaux, 33, gauche et droite réunis, ont voté ce qu'ils ont baptisé l'appel de l'Ardèche. Des élus secoués par les violences de ce week-end, notamment dans la petite commune ardéchoise du Pouzin, violence qu'ils condamnent d'ailleurs fermement. Mais des élus surtout qui sentent monter depuis plusieurs mois la colère et le désespoir dans leur territoire. Pour Laurent Huguetto, le président socialiste du département, le gouvernement doit aujourd'hui impérativement geler les augmentations de taxes sur les carburants prévues au 1er janvier.
On demande à ce que cette question-là arrête de polluer le débat. Et en faisant ce gel dès le mois de janvier, mais il n'y a pas que le carburant, il y a aussi le gaz, l'électricité, avec les annonces d'augmentation. Donc il faut qu'on donne des signes positifs de réponse à ces manifestants et à ceux qui témoignent de leurs difficultés. Et une fois qu'on a donné les réponses, oui, le débat il peut être local, mais il faut qu'on soit surtout entendu par le gouvernement sur la politique en proximité.
Le texte demande aussi des états généraux de la ruralité, une juste répartition des moyens au territoire et un débat citoyen et participatif. Un appel de l'Ardèche envoyé à tous les conseils départementaux de France pour qu'ils le relaient. À Chambéry, Rémi Pierre, Europe.
Et Édouard Philippe doit prendre la parole ce matin devant le groupe En Marche à l'Assemblée, puis lors des questions au gouvernement, demain devant les députés, jeudi devant le Sénat. Il doit également recevoir aujourd'hui des gilets jaunes à Matignon, mais la plupart ont déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas.
Et puis des peines de prison ferme pour deux gilets jaunes.
Oui, deux hommes présentés hier en comparution immédiate après la violente manifestation de samedi soir au Puy-en-Velay en Haute-Loire. La préfecture avait été incendiée. Ils écopent de 3 mois de prison. À Paris, 73 suspects sont passés devant la justice hier. Des hommes souvent jeunes, intégrés, venus de toute la France. Plusieurs ont obtenu le renvoi de leur procès. Les audiences vont se poursuivre aujourd'hui.
On reprend les 5h33.
La contestation a gagné les lycées hier. Plus d'une centaine sont bloqués ou perturbés dans toute la France.
Oui, académie la plus touchée, Toulouse, où plusieurs centaines de lycéens ont défilé une bonne partie de la journée. Des jeunes qui veulent rejoindre ce mouvement de ras-le-bol initié par les Gilets jaunes, mais dont les revendications sont très larges. Reportage de Benjamin Péter.
Ils ont tout fait au pas de course, d'abord pour rallier d'autres lycéens en allant d'établissement en établissement, puis pour tenter de semer les forces de police qui, pendant de longues heures, ont cherché à les disperser avec des gaz lacrymogènes. Une manifestation sauvage qui a rassemblé jusqu'à 700 lycéens. Alors certains portaient un gilet jaune, mais pour Clément, leurs revendications sont bien différentes.
C'est le mouvement lycéen en fait. C'est contre Parcoursup, c'est contre la réforme de l'éducation, c'est contre la loi RE, c'est contre la hausse des prix pour les étudiants étrangers. C'est la démission de Macron ce qu'on veut. Je pense qu'on peut le dire, c'est la démission de Macron.
Éric justement porte un bidon d'huile sur lequel il tape pour scander son slogan. Pour lui, le mouvement des Gilets jaunes a été un déclencheur.
Moi je passe mon bac dans 2 ans, je ne sais pas sur quoi je le passe. Les profs eux-mêmes ne savent pas sur quoi on va le passer. Les gilets, c'est les parents. Et ils nous ont donné le coup de main, ils nous ont dit lancez-vous les jeunes. Ils ont commencé, ils ont ouvert le chemin, ça nous détermine en tant que le futur de demain.
Alors comme lui, beaucoup espèrent que de nouveaux blocages dans les lycées auront lieu ce matin. Ils se sont d'ailleurs donné rendez-vous en début d'après-midi dans le centre-ville pour recommencer le jeu du chat et de la souris dans les rues de la ville. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Et lors de cette manifestation toulousaine, 7 policiers ont été blessés, ainsi qu'un pompier et 11 jeunes arrêtés pour des vols et des dégradations de commerce. Sachez aussi qu'une centaine d'agriculteurs ont déversé 40 tonnes de pierres devant la préfecture d'Eure-et-Loire à Chartres. Hier soir, ils voulaient protester contre la hausse des taxes agricoles. Ils soutiennent les Gilets jaunes en tant que citoyens, mais rappellent qu'ils ne défendent pas les mêmes choses. Quant aux ambulanciers, ils se sont fait entendre eux aussi. 600 de leurs véhicules ont bloqué les abords de la place de la Concorde pour défendre leur métier. Le tueur en série Francis Holm revient devant les assises aujourd'hui pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. C'était en 1986, un crime qu'il a toujours nié. Et puis l'affaire du mur des cons est jugée également à partir d'aujourd'hui. Une affiche dans les locaux du syndicat de la magistrature qui vaut à son ancienne présidente de comparaître pour injure publique.
Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. Une journaliste irréprochable certes, mais aussi totalement en phase avec son temps. Une pro hyper connectée qui se réjouit des nouvelles fonctionnalités technologiques offertes par nos nouveaux studios.
C'est bien qu'on nous ait rajouté ce petit écran là. Alors c'est super, mais je comprends pas trop comment ça marche en fait.
Pas lui non plus, mais c'est joli ce petit écran. Tout de suite, lui non plus, on ne lasse pas de le regarder. Notre sportif maison, Jérôme Lacroix, un petit journal des sports. Allez. À la une, cette question, pourquoi les footballeurs français ont-ils perdu le ballon d'or? Je suis vent debout.
Vous allez avoir toutes les explications. Ils étaient 7 bleus en lice, dont 6 champions du monde, sérieux prétendants au titre de meilleur joueur du monde, comme Griezmann, Mbappé par exemple. Malgré cela, c'est bien le Croate Luka Modric qui a reçu la majorité des suffrages, récompense d'une formidable saison, hein, c'est vrai, gain de la Ligue des Champions, élu meilleur joueur dans le mondial russe qu'il finit deuxième après avoir porté sa sélection jusqu'en finale. Il fait un très beau ballon d'or. Mais pourquoi le lauréat n'est pas l'un des vainqueurs de la Coupe du Monde, donc un Français? Cela nécessite les explications de Jean-François Pérez.
Ils étaient 7 Français dans les 30 finalistes du Ballon d'Or, 6 champions du monde et Karim Benzema. C'était hélas beaucoup trop. Les votes des quelques 192 journalistes du monde entier se sont éparpillés. Il y avait les pros Griezmann, sans doute le Français le plus connu à l'étranger, les fans de Kylian Mbappé, qui devra pour l'instant se contenter du trophée du meilleur espoir, et les légitimistes qui ont préféré Raphaël Varane, seul joueur à avoir réalisé le doublé Ligue des Champions, Coupe du Monde. Mais il est défenseur et ce n'est sans doute pas assez glamour. Tout cela fait donc le bonheur de Luka Modric, étincelant cette saison sous le maillot du Real comme de la Croatie. Modric, 33 ans, l'unique superstar d'un pays de 4 millions d'habitants qui aura donc soufflé à la France et la Coupe Davis et le Ballon d'Or en 2018.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1, et derrière Modric, Ronaldo deuxième et Griezmann finit troisième.
Un Griezmann qui nourrissait de sérieux espoirs de victoire,
et
Jérôme.
Oui, vainqueur de la Coupe du Monde, on l'a dit, et de la Ligue Europa avec l'Atlético de Madrid une nouvelle fois troisième comme en 2016, mais fair play.
Je suis très heureux de mon année 2018. Petite déception, ouais, quand on m'a dit le podium, mais je pense que si je continue à travailler comme je le fais, voilà, pourquoi pas, mais je pense que sur le bon chemin, j'ai fait 2 podiums, donc voilà, faut continuer comme ça.
Des propos recueillis par Cyril de la Morinerie. Kylian Mbappé finit quatrième, mais il remporte le premier prix Copa, le ballon d'or des moins de 21 ans. L'attaquante norvégienne de Lyon, Anna Egerberg, 23 ans, remporte elle le tout premier ballon d'or féminin de l'histoire.
On termine, Jérôme, avec la personnalité du jour.
Je parie que ce sera aujourd'hui Kevin Mayer, vous vous souvenez, l'athlète français, le recordman mondial
du
décathlon, lui peut-être sera désigné ce soir meilleur sportif du monde de sa discipline. L'athlétisme mondial remet ce soir à Monaco ses récompenses de fin de saison et Mayer fait bien sûr partie des favoris pour le titre d'athlète de l'année.
Avec vous, Jérôme. Vous êtes en lice.
L'athlète gonflette de l'année.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Oui, Jérôme, vous vouliez me demander quelque chose?
Il est là, Bob Marley.
Bob Marley, non, il a pas pu venir, il vous prie de l'excuser. En revanche, n'oubliez pas vos petits c'est important d'envoyer avec le docteur Ichou.
Il est 5h38, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'actu complète enrichie en notre page santé avec ce matin un zoom sur une pathologie qu'il ne faut pas prendre à la légère et qu'il faut savoir diagnostiquer chez ses proches avant qu'il ne soit trop tard, la dénutrition. Et puis ce sera mardi, les bons tuyaux, tous nos conseils culture et nouvelles technologies avec aujourd'hui de la littérature, du jazz et les dernières avancées de la voiture autonome. Dernièrement, un Américain s'est endormi au volant et a été poursuivi pendant plus de 11 minutes par la police qui ne parvenait pas à faire comprendre au véhicule autonome donc qu'il fallait s'arrêter.
Non, tu déconnes.
Eh, j'ai une tête à déconner, Eva. Non.
Non, tu déconnes.
5h40, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Est-ce qu'il y a du soleil aujourd'hui?
Oui, déjà ce matin sur les Pyrénées, les côtes méditerranéennes, enfin quand il sera levé, hein, évidemment. Le nord-est de la Corse, quelques éclaircies entre 2 averses possibles de la Normandie aux Ardennes en passant par l'île de France, partout ailleurs. C'est bien couvert encore et faiblement pluvieux même sur la moitié est. Du mieux pour cet après-midi avec des éclaircies qui vont gagner l'Auvergne, la région Rhône-Alpes, soleil présent aussi plus largement de la Haute-Normandie au nord de l'Alsace en englobant les Hauts-de-France et la région parisienne. Et puis nouvelle perturbation faiblement pluvieuse, elle arrivera en fin de journée par la Bretagne. Les températures sont en légère baisse cet après-midi. 10 degrés à Lille cet après-midi, il en fait 11 en ce moment à Paris. Et bien c'est la température qu'il fera également cet après-midi. 13 à Rennes, 17 à Auch, 18 à Tarbes. C'est encore très très doux dans le sud, hein. 19 à Toulon et 20 degrés même à Ajaccio.
Merci Céline. Eva, quelle question avez-vous posé à nos éditeurs aujourd'hui?
On n'a pas eu le ballon d'or. Mais alors, quelle cérémonie pourrait-on inventer pour qu'un Français obtienne un prix, pour qu'on en soit sûr? Eh bien, Foulage Jérédy nous dit le prix du Latin Lover. C'est vrai, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai.
Latin Lover français.
Oui, bah, pourquoi pas. Philippe nous dit un prix en voile et il cite François Gabart et on le remercie. Jérémy nous dit un prix réservé à un footballeur ou un sportif français. Bah oui, c'est
mais
logique.
La compétition que vous cherchez existe déjà, c'est les championnats du monde de pâté en croûte. Vous avez vous n'aurez jamais d'Américain qui gagnera cette compétition.
Ah, ça, c'est sûr.
Oui, mais
jamais de
pas...
Croate pour le pâté en croûte. Lucas Modric là.
Pas des Allemands? Pas des Allemands qui pourraient gagner le pâté en croûte.
En tout cas, le dernier était français, je vous le confirme.
D'accord, vous l'avez goûté.
J'ai des infos.
Enfin, pas le français, le pâté en croûte.
Vous êtes bien renseigné.
Oui, Eva, passons vite à autre chose. Merci, Eva.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
L'heure de notre page santé avec le docteur Marcel Ichou. Bonjour Marcel.
Bonjour Mathieu.
Le collectif contre la dénutrition vient de publier un clip pour donner l'alerte contre ce mal qui touche près de 2 millions de Français, notamment les personnes âgées. Manquer d'appétit, c'est une maladie, docteur Ichou?
C'est une maladie dans certaines circonstances. Perdre l'appétit, ça n'a pas l'air d'être quelque chose de très grave, mais en fait, c'est une spirale infernale qui peut conduire à des situations dramatiques, voire au décès.
Comment on l'explique ça? C'est juste que les plateaux repas sont pas bons dans les maisons de retraite ou c'est juste une perte de l'appétit qui vient du patient ou de la personne âgée?
C'est une perte de l'appétit qui vient du patient, de la situation dans laquelle il est, parfois d'un problème psychologique. Quand on est en situation de difficulté, perdre l'appétit, c'est perdre l'appétit aussi au sens général, c'est perdre le désir. Et ça
l'appétit
peut commencer
de vivre, l'appétit de vivre. Et ça commence
exactement.
Par l'appétit, tout simplement, manger
exactement.
Quelque chose. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte? Il faut guetter.
Alors, les signes d'alerte, à part le manque d'appétit, c'est un repli sur soi, une fatigue, un manque d'énergie. Et là, il faut agir très vite parce qu'après, c'est une spirale infernale qui peut conduire à des baisses de l'immunité et puis s'ensuit après toutes les infections et les catastrophes, infections pulmonaires, infections rénales. Et ça peut aller jusqu'à l'hospitalisation, voire au décès.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'accompagnant, si on voit quelqu'un dans notre entourage qui présente ces signes-là, qu'est-ce qu'on fait?
Tout dépend du stade auquel on le voit. Il est clair qu'au tout début, il faut être vigilant quand vous avez des personnes en fragilité proches de vous. Il faut faire attention, s'enquérir du fait, est-ce que tu manges, est-ce que tu fais tes courses, etc. Là, on peut encore faire quelque chose. Au stade supérieur...
De la dénutrition.
Là, il faut, sur des critères biologiques, à ce moment-là, on supplémente et cette fois,
les
vitamines et les nutriments sont indispensables et on hospitalise parce qu'il faut faire parfois de la réanimation. Donc c'est pas une petite affaire. Dénutrition, c'est une vraie maladie.
Il faut vraiment pas le prendre à la légère. Merci beaucoup Marcel Ichoux. On se retrouve demain 5h40 pour un nouveau point santé.
Europe 1. Il est 5h44. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, deux heures où l'actu et le rire s'entendent comme larron en foire. À suivre dans Mardi les bons tuyaux, évidemment tous nos conseils littérature et écran, mais surtout aujourd'hui, l'incroyable histoire de cet Américain qui s'est endormi au volant de sa voiture. Heureusement, elle était autonome, il a pu rouler 11 km en pionçant à point fermé avant que la police ne le prenne en chasse. Exactement, comme l'épisode 1 de K2000 en 1989.
Hey, t'as vu ça? Le type là, il a l'air de dormir. On va s'approcher pour le réveiller. Hein.
Mais oui, quand la réalité dépasse la fiction, ou la rattrape en tout cas, Eva. En attendant, je vous propose notre deuxième interlude musical et une chanson que plus on écoute, plus on aime, et c'est heureux car on l'écoute beaucoup. Natural, Imagine Dragons sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h47, Mathieu Noël.
À suivre, le meilleur de la culture et des nouvelles technologies. Mardi, les bons tuyaux au programme. Quand les écrivains se lancent des défis, les plus grandes stars du jazz réunies en une seule soirée, et puis la voiture autonome du rêve à la réalité.
Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la police?
Tu t'es endormi au volant.
Ça, c'était K2000 en 1989, mais en 2008, c'est vraiment arrivé à un Américain qui s'est endormi au volant de sa voiture autonome. Et ça pose pas mal de questions.
Il est 5h48, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Mis sous pression par les gilets jaunes, le Premier ministre devrait faire des annonces dans les prochaines heures pour tenter de calmer la grogne, alors qu'un possible nouveau samedi de violence se profile. La contestation s'étend également à certains lycées. Une centaine était entièrement ou partiellement bloquée hier. Le syndicat de la magistrature jugé pour son mur des cons, l'ex-présidente du syndicat comparée pour injure publique, elle avait affiché un trombinoscope dans ses locaux en 2013, sur lequel étaient affichés les visages de plusieurs personnalités, surtout de droite. Enfin, le Ballon d'Or échappe à un footballeur français malgré la victoire en Coupe du Monde. Le Croate Luka Modric a été élu hier meilleur joueur du monde.
Europe 1.
Voici pour l'actualité de ce 4 décembre et tout de suite on passe au pronostic épique.
Un cavalier qui surgit lors de la nuit.
Seigneur Coves, rebonjour.
Oui, buenas dias les compagnos. Il y a au départ 18 trotteurs de 4 ans à la valeur mal définie. Tout peut donc arriver dans cette troisième course à Vincennes. J'ai choisi d'abord le 15 El Costo du Banet. Ce Costo va de nouveau jouer l'effort. Le 5 Espoir du Langis de la Maison Bigeon a sa place à l'arrivée. Le numéro 4 Elliot d'Ambry, censé faire les pieds nus, postule à la première place. Puis le 2 Elorius de Guèze, c'est Jean-Michel Bazir qui le mène. À l'évidence, c'est une assurance. Quant au 3 Erdeven Tonic, il visera plutôt une petite place. Trois autres possibilités. Le 17, Angeleur Léman, il partira avec la confiance de Franck Nivard. Le 6, Emblème Orange, le cheval surprise par excellence. Et enfin, le 18, Explosif, avec Osulki, un Mathieu Abrivard en grande réussite. Voici donc mon ticket pour cette troisième course vers 13h47. D'abord le 15, le 5, le 4, le 2 et le 3. Et l'on ajoute le 17, le 6 et le 18.
Non mais José, ne me dites pas que tout peut arriver. On n'est pas assez riche pour jouer les 18 partants.
Mais Mathieu, dans ce quintet, il y a trop d'interrogations, peu de valeurs sûres, à l'exception du 15 El Costo du Banet, la force est en lui, et du 4 Elliot d'Ambry, dont le driver Johan Le Bourgeois est en état de grâce. Le 15 et le 4, ce sont mes deux locomotives. À vous maintenant d'accrocher les wagons.
Merci José pour ces conseils.
Il est 5h50. Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Nicolas Caro pour la littérature et François Geffrier pour les nouvelles technologies. François qui nous parlera ce matin d'un domaine qu'il connaît bien, l'automobile. La saison dernière, c'est en effet lui qui avait décroché le prestigieux prix du reportage alliant l'utile à l'agréable, le Coquinou d'Or 2018, puisqu'il avait su profiter des grèves pour officiellement tester l'efficacité du covoiturage et officieusement embarquer des étudiantes sans éveiller leurs soupçons.
Faute de train, on va tenter la voiture. François Geffrier, vous êtes parti de Nemours ce matin en covoiturage avec deux étudiantes.
Et avec même trois passagères finalement. Et je suis avec effectivement notamment Irina qui est à l'arrière sur la banquette de la magnifique Clio.
Merci. Rendez l'antenne. Merci François Geffrier. François, ce matin, de vos souvenirs. Vous nous parlerez ce matin avec gourmandise des nouvelles avancées en matière de voitures autonomes. Avancées que vous attendez avec beaucoup d'impatience puisque si la voiture se conduit toute seule, vous aurez enfin les mains libres. Mais d'abord,
c'est ce que m'a dit hier Eva à la cantine quand je lui ai parlé de cette idée de chronique.
C'est très certain. Mais d'abord, priorité, les amis, à la littérature. Enfin, c'est un peu spécial ce matin, Nicolas Caro. À l'occasion du dernier livre de Jean-François Kahn, vous avez décidé de nous parler des contraintes littéraires.
Et oui, Jean-François Kahn qui publie M, la maudite, chez Talendier, une encyclopédie dont toutes les entrées commencent par la lettre M. Macron, Mérine, Maupassant, Maurras, musique, c'est-à-dire essayer d'embrasser le monde avec un seul outil, une seule lettre, le M. Il n'est pas le premier à jouer avec ce genre de contrainte de départ. Écoutez ce texte et dites-moi si vous remarquez quelque chose d'étrange. Anton Voile n'arrivait pas à dormir. Il alluma, son jazz marquait minuit 20. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification.
Là, il faut que je joue les naïfs, c'est ça ?
Oui, s'il vous plaît.
Comme ça, non ? Mais qu'y a-t-il d'étrange ?
Eh bien, il n'y a pas une seule fois la lettre E. C'est un extrait du livre de Georges Perec, La disparition, un tour de force. Essayez de faire une seule phrase sans la lettre E, c'est très, très dur.
Ah oui. Non, c'est quasiment impossible. C'est vrai que c'est un tour de force, surtout que le livre est assez long, hein, La disparition.
Oui. De 200 pages.
Ouais. Alors la disparition de Perec, c'est connu, mais quel est l'intérêt de se mettre soi-même des bâtons dans les roues comme ça ?
C'est une stimulation, une contrainte, ça permet d'aller plus loin. Par exemple, pour Perec, imaginez le nombre de tours et de détours qu'il a dû faire pour s'en sortir. Il a fallu qu'il puise dans un répertoire de mots beaucoup plus large que d'habitude. C'est un exercice, mais pas seulement, c'est une démarche artistique.
Il y a beaucoup de textes comme ça ?
Pas tellement, heureusement, mais il y a un groupe de pensée, ils ne se définissent pas vraiment, qui s'appelle l'Oulipo, des écrivains qui se réunissent et qui réfléchissent aux contraintes qu'ils pourraient s'infliger. Perec en faisait partie, Raymond Queneau aussi. Et par exemple, il y a le « à supposer ». C'est une phrase qui doit commencer par « à supposer » et qui se compose d'au moins 200 mots. Donc débrouillez-vous, vous devez broder une phrase très 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 longue, une seule, avec du sens. Bon courage.
Merci Nicolas, mais juste une question qu'on se pose comme ça, est-ce que c'est pas plus un plaisir que se fait l'écrivain ou un truc d'écrivain pour
oui,
le lecteur, est-ce que c'est
pour rire.
Mais pour le lecteur, est-ce qu'il y a un intérêt quand même ?
Ah bah, je sais pas, la disparition, c'est non seulement une contrainte, mais c'est aussi passionnant à lire. Mais parfois, vous vous surprenez à regarder les mots et à vous dire, mais c'est incroyable, il n'y a pas de E. Et ça marche, quoi.
J'ai lu la disparition, c'est vrai, en plus, c'est une bonne histoire.
Ça force à utiliser un vocabulaire que vous n'utilisez pas habituellement, en fait. Voilà. C'est comme quand vous faites travailler vos cinq sens.
C'est pas bête, ça, Eva, c'est pas bête. Merci beaucoup, Nicolas Caro. François Geffrier, je le disais ce matin, vous nous parlez donc de voitures autonomes avec une histoire dingue, puisque vous allez nous raconter ce qui s'est déjà produit une fois, il y a 30 ans, mais dans K2000 sur TF1.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Tu t'es endormi au volant. Tu te souviens ?
Non, c'est extrêmement confus. Et en plus, je suis en train de parler à une voiture maintenant.
Et là, c'est vrai. Un Américain s'est endormi au volant de sa voiture autonome et a été réveillé.
Ce qui est bien, c'est que vous racontez déjà l'histoire avant que je lise ma chronique.
J'étais tellement enthousiaste. J'étais tellement enthousiaste sur votre sujet. Et nous raconter, on oublie tout, l'histoire d'une course-poursuite.
Une course-poursuite sur une autoroute à l'américaine. D'ailleurs, ça se passe aux États-Unis le week-end dernier. Une voiture fait un excès de vitesse sous les yeux d'un officier de police qui conduisait lui aussi. Celui-ci enclenche sa sirène et son gyrophare et arrive à la hauteur du fautif. Et là, il se rend compte, surprise Mathieu, que le monsieur au volant est en train de dormir. La voiture...
Maintenant,
incroyable. Vous attendez pas à ça. La voiture, c'est une Tesla, cette marque haut de gamme, toute électrique. Et surtout, elle est probablement effectivement en mode autopilote. Elle conduit toute seule. Comment faire pour l'arrêter sans lui rentrer dedans tout simplement. Le policier qui entre-temps a reçu le renfort de deux collègues place sa propre voiture devant la Tesla et ralentit petit à petit. La voiture qui conduit toute seule adapte sa vitesse automatiquement et ralentit elle aussi. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, les officiers parviennent à arrêter la voiture et arrêter évidemment aussi son conducteur, qu'ils ont d'abord réveillé, on peut imaginer, sans doute pas vraiment en douceur. Mais elle aura roulé quand même comme ça pendant 7 minutes et sur 11 km au total.
Mais non, ce qui est fou, c'est que moi, je pensais qu'il y avait des expérimentations en cours sur la voiture autonome et qu'on pouvait pas déjà conduire, se laisser conduire comme ça par sa voiture.
Alors, se laisser conduire, on a le droit, mais en profiter pour piller, pour faire autre chose, ça, c'est pas encore autorisé.
C'est illégal.
En fait, la voiture autonome, la voiture qui conduit toute seule, ça va arriver, mais en plusieurs étapes. Aujourd'hui, on connaît déjà l'étape régulateur de vitesse. Vous mettez 130 et la voiture roule à 130 toute seule. Ça, c'est le niveau 1 de l'automatisation. Ça va. L'aide pour se garer, c'est niveau 2. Ça va aussi. Les voitures capables de conduire toutes seules sur autoroute, adapter leur vitesse en fonction de ce qu'il y a devant, etc. C'est niveau 3. Ce sera légal en France en 2020. Mais il faudra toujours pouvoir reprendre le contrôle manuellement à tout moment. Le niveau 4 de l'automatisation, c'est la voiture qui conduit vraiment toute seule. Ça, il faudra attendre 2022 pour le voir en France. Et pour avoir le droit de dormir, ça, on n'a malheureusement pas encore de date.
Mais c'est le niveau 4, c'était quel niveau là aux États-Unis ? Alors là, conduisait toute seule, c'était sur autoroute ?
C'était sur une autoroute, mais c'était en Californie, où les règles sont un petit peu aménagées justement parce qu'il y a tous ces géants, notamment Tesla et Google aussi, qui expérimentent des voitures autonomes.
Incroyable. Merci beaucoup François Geffrier. On termine avec vous, Eva Rock.
Il y a des nommés, des gagnants, mais pas de discours ennuyeux. Pour la deuxième année consécutive, les Victoires du Jazz prennent vie dans un excellent documentaire dressant le portrait des lauréats. Ça a été diffusé samedi soir sur France 3 à 20h30. Cherchez l'erreur. Le film est disponible sur la formidable plateforme Culturebox. 1h20 d'excellente musique et de découvertes. Parmi les élus, il y a le Amazing Keystone Big Band, un big band français qui avait déjà enchanté nos oreilles avec une reprise de Pierre et le Loup puis du Carnaval des Animaux avant de créer une histoire autour de Django Reinhardt, un récit conté par Guillaume Gallienne.
Certaines musiques donnent envie de danser. Le jazz en fait partie. As-tu déjà entendu des trompettes et des trombones se parler et chanter à tue-tête ? Non, répond Léo. Eh bien, nous allons arranger ça.
Un groupe jeune, enthousiaste, ultra créatif qui travaille actuellement avec Vincent Dedienne à une nouvelle histoire consacrée à Ella Fitzgerald. Amazing Keystone Big Band est donc le groupe de l'année et c'est mérité tout autant que le prix pour la voix 2018 qui revient à une chanteuse divine et pas diva, Cécile McLaurin-Salvant, une fille que tout le monde aime. Il suffit d'écouter les autres nommés parler d'elle.
Ah, Cécile.
Quelle voix.
Ah.
T'es la meilleure chanteuse du monde.
Quel swing.
Tout le monde aime Cécile.
Une grande artiste.
I can be bolder, sharpen my dagger.
Cécile, elle aime trop de choses. Elle aime la vie en général.
Elle est très gourmande. I have eyes for you
to give you dirty looks. Elle se rêvait chanteuse d'opéra ou actrice. Elle est un peu des deux, mais surtout une immense chanteuse de jazz reconnue sur la scène mondiale. Je vous laisse découvrir les autres lauréats sur la plateforme Culturebox. Vos oreilles seront ravies et votre âme aussi.
Donc en fait, en gros, ça fait des années que je réécoute Sarah Vaughan et en boucle. Et je et suis complètement...
Non, vous ne laissez pas tomber Sarah Vaughan, mais vous écoutez Cécile
McLaurin. Je n'ai jamais entendu son nom.
Extraordinaire.
Même. C'est quand même incroyable pour quelqu'un qui aime plutôt le jazz. Merci
pour
beaucoup.
Une fois que je vous apprends un truc,
là,
c'est
vous
pas
m'apprenez
mal.
Quelque chose. Voilà. Et vous m'avez appris aussi le nom du groupe et ça, vous avez un peu de mal à le dire.
L'Amazing Keystone Bank.
Mais l'Amazing Keystone Bank, c'était pas la même chose. Merci beaucoup, Eva Rock. Merci à toute l'équipe de Mardi les bons tuyaux. François Geffrier, satisfait de votre prestation ?
Good morning, good morning.
Oui, vous
pas Il est 5h58, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h59, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, ma chère Céline Dacosta. Un ciel encore couvert ce matin et du mieux pour cet après-midi.
Oui, couvert pour la plupart des régions avec encore un petit peu de pluie de l'Alsace jusqu'à l'est de l'Auvergne. On aura déjà quelques éclaircies entre le nord de la Bretagne et les Ardennes en passant par la région parisienne. Puis cet après-midi, le soleil sera plus généreux de la Haute-Normandie au nord de l'Alsace. Il gagnera le massif central de la région Rhône-Alpes et sera toujours présent sur les côtes méditerranéennes et les Pyrénées. Partout ailleurs, ce sera encore bien gris avec quelques pluies encore sur les reliefs de l'Est et puis les températures vont baisser un peu mais resteront douces. La moyenne sera de cet après-midi de 11 à 20 degrés du nord au sud.